Bon, décortiquons tout ça, parce que notre exploration d'aujourd'hui s'attaque à un univers qu'on imagine souvent assez gris, quoi.
Ouais, bureaucratique.
C'est ça, rempli de dossiers poussiéreux. Bref, la politique locale. Sauf que les documents qu'on a rassemblés aujourd'hui dressent un portrait, mais alors radicalement différent.
Et totalement l'opposé, ouais.
L'objectif de notre analyse, c'est absolument pas de lire une brève électorale classique, hein. La source qu'on examine aborde la gestion d'une ville sous l'angle d'une véritable tragédie théâtrale.
Ou même d'un soap-opéra.
Exactement. Le document dépeint cette arène à travers le prisme d'une série dramatique, avec un titre qui est, je trouve, délicieusement ironique. Dallas, Beson, Paris, Ouest Défense.
C'est très évocateur.
Pour poser le décor, on parle de Beson, une commune du Val d'Oise. Sur le papier, c'est une ville plutôt tranquille, mais géographiquement, elle est située juste aux portes du gigantesque quartier d'affaires de Paris La Défense.
C'est un contraste énorme.
Ah oui, l'auteur joue énormément sur ce contraste saisissant entre la banlieue d'apparence paisible et des coulisses politiques qui sont en ébullition constante.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'utilisation du format feuilleton avec ses codes télévisuels et son vocabulaire de scénariste, c'est pas juste une blague.
Absolument pas.
C'est pas un simple artifice humoristique. C'est un outil rhétorique d'une efficacité redoutable pour révéler la nature profondément viscérale de la vie publique.
Ouais, c'est sûr.
Habituellement, l'analyse politique se contente de sculpter les programmes, les budgets ou les étiquettes partisanes.
Les trucs ennuyeux, quoi.
Voilà. Mais ce texte vient secouer cette habitude en rappelant une vérité élémentaire. La politique reste avant tout une affaire d'interaction humaine.
D'égo.
D'égo froissé, de jalousie, d'ambition. En structurant son propos comme une série des années 80, le document force quiconque le lit à regarder au-delà de la langue de bois.
Pour examiner les vraies dynamiques de pouvoir.
Exactement. Et bien entendu, notre démarche aujourd'hui, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points, hein,
Non, pas du tout.
ni de prendre parti sur les acteurs locaux mentionnés. Notre but, c'est vraiment de décrypter comment cette mécanique dramatique et humaine est mise en lumière.
Justement, pour entrer dans le vif du sujet, l'auteur s'attarde très vite sur la composition des listes électorales.
La fameuse scène 1.
C'est ça. Et on y remarque un motif assez surprenant. On ne parle pas de rassemblement hétéroclite de citoyens de tous les quartiers.
Ni d'experts locaux indépendants.
Du tout. Le document souligne une présence massive de liens de parenté. C'est fou. Il mentionne très spécifiquement la présence sur une même liste du père, de la fille, de la cousine, de l'ancienne adjointe.
Et même de la fille de l'adjointe.
Et mais oui, c'est une véritable généalogie. Du coup, qu'est-ce que ça nous révèle, cette dynamique familiale? Est-ce qu'on doit y voir une simple maladresse ou une véritable stratégie?
C'est une question cruciale. Derrière le côté presque cocasse de la situation, il y a une dynamique psychologique très lourde, en fait.
Laquelle?
La question posée en filigrane par le texte, elle est vertigineuse. La politique devient-elle une affaire de famille ou est-ce la famille qui se transforme en entreprise politique?
Ah ouais, vu comme ça.
Pour comprendre ça, il faut se pencher sur la notion de confiance dans un environnement sous haute tension. La politique locale telle qu'elle est décrite ici, c'est un terrain perçu comme hostile.
Bourré de chausse-trappe.
Exactement. Donc, vers qui un candidat va-t-il se tourner pour former sa garde rapprochée, son noyau dur?
Naturellement, vers les liens du sang.
Voilà, la famille est censée représenter le degré ultime de la loyauté. On espère secrètement que la cousine ou la fille ne plantera pas de couteau dans le dos du candidat lors du prochain conseil municipal.
On forme un clan pour se rassurer, en somme.
Ça fait inévitablement penser au célèbre jeu de cartes des sept familles.
Ah, totalement.
Genre, dans la famille politique de Beson, je voudrais la fille de l'adjointe.
Pioche, c'est ça. L'analogie est amusante, mais j'imagine que cette approche clanique, ça pose un problème majeur sur le plan démocratique à long terme, non?
Énorme. Quiconque a déjà observé les dynamiques d'une entreprise familiale fermée à toute influence extérieure peut comprendre le danger de cet entre-soi.
Le manque de sang neuf.
Oui, si une liste électorale qui a vocation à diriger une ville entière se transforme en arbre généalogique, elle cesse mécaniquement d'être représentative de la diversité de ses habitants.
Ça devient un vase clos.
Un écosystème hermétique, ouais. Une forteresse, en fait. Et le problème d'une forteresse, c'est qu'elle protège d'abord ses propres intérêts.
Oui, c'est logique.
Les idées nouvelles, la méritocratie ou la simple remise en question peinent à franchir les murs de ce clan. On préfère s'entourer de personnes loyales plutôt que de personnes potentiellement plus compétentes.
mais perçu comme un incontrôlable, du coup.
Exactement.
Ce besoin viscéral de contrôle, ça nous amène logiquement à une autre facette de cette dynamique, surtout lorsque le clan est forcé d'interagir avec le reste du monde politique.
La fameuse valse des alliances.
Voilà, les scènes 2 et 3 du document. Le texte décrit un phénomène fascinant concernant les alliances entre différentes listes. Ça dépeint une véritable valse où les positions changent à une vitesse folle.
Ça donne le tournis.
Vraiment. La source note qu'un individu peut être colistier lors d'une campagne et se retrouver adversaire frontal lors de la suivante. Comment on explique cette instabilité permanente, ces alliances qui semblent se faire et se défaire au gré du vent?
Cela soulève une question importante sur la nature des accords qui sont passés dans les coulisses de ces mairies.
Qu'est-ce qui s'y passe vraiment?
Si l'on applique un peu de théorie des jeux à cette situation, on comprend vite pourquoi le système est si instable, contrairement à la politique nationale où l'idéologie cimente souvent les camps.
Où on a de grands idéaux?
Voilà. Ici, les négociations locales décrites sont purement arithmétiques et stratégiques. C'est un jeu à somme nulle.
On compte les coins.
C'est ça. On ne discute pas nécessairement de la grande vision urbanistique pour les 20 prochaines années. On discute de l'immédiat.
Genre, qui obtient le poste de premier adjoint?
Exactement. Qui récupère la délégation aux finances ou au sport? À partir du moment où l'alliance ne repose pas sur un socle de convictions profondes, mais sur un calcul d'intérêts croisés...
C'est ultra fragile.
La moindre variation dans le rapport de force fait exploser l'accord. Le colistier d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui, simplement parce que l'équation mathématique de son ambition a changé.
D'ailleurs, l'auteur décrit les négociations qui mènent à ces alliances de manière assez spectaculaire. On parle de marathon de 48 heures non-stop.
Enfermés dans des bureaux.
Oui, pour fusionner des listes entre les deux tours d'une élection. Et le contraste frappant, c'est que ces 48 heures de tractation intense, elles peuvent s'effondrer en l'espace de 5 petites minutes.
C'est vertigineux.
Qu'est-ce qui se passe psychologiquement dans ces moments-là pour qu'un château de cartes mis si longtemps à être bâti s'écroule en un instant?
Il faut imaginer l'état d'épuisement mental et physique qui règne au bout de 48 heures de tractation ininterrompue. La fatigue exacerbe les sensibilités.
On n'a plus les idées claires.
Dans ces ultimes minutes, on ne négocie plus de manière rationnelle. L'ego prend le relais de la logique politique. Si un acteur clé sent soudainement que sa position n'est pas estimée à sa juste valeur...
Ou qu'un rival interne a obtenu un tout petit truc en plus...
Une micro-concession de plus que lui...
Oui, le point de bascule est atteint.
Le sentiment d'humiliation potentielle l'emporte sur l'avantage mathématique de l'alliance.
C'est irrationnel.
Totalement. Et c'est exactement là que le mot central du drame politique entre en jeu. Le document souligne que ces effondrements mènent systématiquement à des accusations de trahison.
Le grand mot est lâché.
C'est paradoxal, car dans un système défini par des alliances de stricte convenance personnelle, la trahison devrait être une donnée de base, presque une clause du contrat.
C'est vrai, on s'y attend.
Pourtant, elle est vécue comme un véritable drame personnel.
Ce mot de trahison a une résonance shakespearienne indéniable, c'est clair. Mais cette pression psychologique, ça soulève une autre question.
Laquelle ?
Que se passe-t-il concrètement quand ces accords fragiles finissent par craquer ? On arrive à la scène 4. L'auteur illustre parfaitement cette rupture. Dans ce genre d'environnement, la scission ne se fait jamais discrètement.
Ah non, surtout pas.
Au contraire, les anciens alliés se mettent à produire des communiqués de presse en cascade qui volent dans tous les sens, comme des missiles. Les rivalités privées sont étalées sur la place publique.
C'est le grand déballage.
Le texte compare littéralement ces affrontements médiatiques à des intrigues de séries télévisées. On a l'impression d'assister à des cliffhangers calculés pour tenir l'audience en haleine.
Le public adore ça.
Mais politiquement parlant, quel est l'intérêt de laver son linge sale en public de manière aussi théâtrale ? N'est-ce pas suicidaire de montrer une telle désunion ?
Intuitivement, on pourrait penser que c'est une perte de contrôle purement émotionnelle. Un coup de sang.
C'est l'impression que ça donne.
Mais stratégiquement, c'est souvent très calculé. En politique, rendre une rupture spectaculaire et publique, c'est une manière de brûler ses propres vaisseaux.
On ne peut plus reculer.
On franchit le Rubicon de manière si voyante qu'aucun retour en arrière n'est possible. En attaquant violemment son ancien allié par voie de presse, l'élu envoie un signal clair à sa propre base.
Il dit « Regardez, le pont est détruit, vous devez maintenant choisir votre camp ».
C'est exactement ça. C'est une technique de polarisation pour forcer les indécis à se positionner. La théâtralisation sert d'accélérateur de crise.
Mais n'y a-t-il pas un risque immense pour la crédibilité même de la fonction ? Si le débat public est inondé de querelles, de clochers et de règlements de comptes personnels, que reste-t-il pour les électeurs qui attendent des décisions sur leur quotidien ?
C'est l'effet pervers majeur que pointe cette métaphore du feuilleton. Le drame engloutit la substance.
La forme écrase le fond.
Oui, les électeurs finissent par suivre une succession d'épisodes centrés sur des personnages, des traîtres et des victimes, exactement comme dans Dallas.
C'est fascinant et triste à la fois.
Pendant que l'attention est focalisée sur qui a publié quel communiqué vengeur, le fond du débat politique disparaît. La gestion réelle de la municipalité passe au second plan.
On oublie pourquoi ils ont été élus.
La forme dramatique prend le pas sur le projet politique et le citoyen moyen se retrouve spectateur d'une pièce de théâtre au lieu d'être l'acteur de sa propre cité.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car l'auteur du document ne se contente pas d'observer les batailles de communiqués. Il nous emmène au cœur du réacteur.
La scène 5.
Là où les décisions sont censées être prises de manière démocratique, le conseil municipal. Et c'est dans ce cadre solennel qu'une formule rapportée par le texte vient cueillir l'auditoire de manière brutale.
Ah oui, cette citation.
Un élu fustige la dynamique de l'Assemblée en utilisant une expression devenue célèbre localement. Il parle de l'omniprésence de Playmobil.
C'est fort.
Il faut s'arrêter une seconde sur ce point. Utiliser un jouet en plastique pour définir des élus de la République, c'est une métaphore d'une violence symbolique inouïe, je trouve.
C'est cinglant. Comme des Legos, c'est une petite figurine en plastique moulée d'un seul bloc.
Elle arbore un sourire figé.
Peint de manière indélébile sur son visage, ouais. Et surtout sur le plan de la mobilité, les bras d'un Playmobil ne peuvent faire qu'un seul et unique mouvement.
Se lever et se baisser de manière parfaitement rigide.
Et ensemble. Les deux bras bougent en même temps. L'image utilisée ici est d'une précision chirurgicale pour dénoncer une dérive institutionnelle profonde. L'auteur explique que cela symbolise un système où, je cite, « le document, l'obéissance remplace parfois le débat ».
C'est terrifiant quand on l'applique à une assemblée citoyenne.
Absolument.
L'image du bras qui se lève de façon rigide, ça évoque immédiatement le vote automatique. Ça vient percuter tout ce qu'on a dit précédemment, en fait.
La boucle est bouclée.
Si un dirigeant compose sa liste électorale uniquement avec les membres de son cercle familial, par peur de la trahison, ou s'il noue des alliances purement transactionnelles, basées sur la distribution de postes lors de nuits blanches épuisantes,
le résultat final est là.
Il obtient ce qu'il cherchait, le contrôle absolu. Mais le prix à payer, c'est cette armée de Playmobil, des conseillers devenus interchangeables.
Privés de libre arbitre.
Dont la seule fonction politique se résume à lever la main mécaniquement au moment de voter les décisions du chef de file.
Avec ce fameux sourire figé de circonstance.
Exactement. Et c'est le symptôme clinique d'un organisme politique sclérosé. Le conseil municipal est censé être l'agora, le lieu de la contradiction, de la nuance et de la délibération.
Le cœur de la démocratie locale.
Mais lorsque les dynamiques de clans et de cours ont tout envahi, l'Assemblée est vidée de sa substance démocratique pour devenir une simple chambre d'enregistrement.
C'est triste.
Et il est très révélateur d'observer comment la critique politique s'exprime aujourd'hui. On ne fait plus de grandes diatribes sur la séparation des pouvoirs ou la constitutionnalité.
Non, on utilise des références de la culture pop. L'insulte qui marque les esprits et qui blesse profondément, c'est la référence au jouet. Traiter l'adversaire de Playmobil, c'est le déshumaniser.
Le vider de sa substance.
C'est lui retirer son statut d'être pensant, pour le réduire à un objet docile et artificiel façonné par les intrigues de palais.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie fondamentalement?
C'est la grande question.
Après nous avoir entraînés dans les affres du népotisme local, décrit la valse vertigineuse des trahisons de couloir et dépeint un conseil municipal peuplé de figurines en plastique, le texte amorce sa conclusion.
La fameuse scène 6.
L'auteur ressent le besoin de recentrer l'objectif sur ce qu'il appelle le véritable enjeu de toute cette agitation. Il met en lumière une tension presque existentielle qui plane au-dessus de Bézonce.
Et par extension, de nombreuses autres communes, on l'imagine.
Complètement. D'un côté, la politique perçue comme un pur spectacle romanesque, un théâtre d'ombre nourri par les ambitions dévorantes d'acteurs fascinés par la puissance de Paris La Défense toute proche.
Le côté Dallas.
Et de l'autre, la politique comprise comme un sacerdoce, un engagement concret au service du quotidien des habitants. La question qui flotte dans l'air est évidente.
Tout ce fracas sert-il à quelque chose ?
Toutes ces manœuvres byzantines servent-elles le bien commun ou ne sont-elles que le carburant d'ambitions purement individuelles?
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la chute du document propose une perspective qui ramène le pouvoir à sa source initiale.
L'électeur?
Oui. Malgré la noirceur du tableau dressé, l'auteur maintient brillamment la métaphore filée de la série télévisée jusqu'à l'ultime phrase, en affirmant que ce sont les citoyens qui écriront le prochain épisode.
C'est une belle image.
C'est une remise en perspective essentielle. Les politiciens ont beau s'épuiser à concevoir des intrigues dignes de Machiavel, s'allier, se déchirer et s'invectiver par communiqués interposés, ils ne sont en fin de compte que des acteurs sur une scène.
Des personnages de la série.
Le véritable producteur de la série, celui qui possède le pouvoir souverain de renouveler la saison ou de l'annuler purement et simplement, c'est l'électeur dans l'isoloir.
Le bulletin de vote et le stylo qui valide ou sanctionne le scénario.
C'est un rappel salutaire que la machinerie politique, aussi cynique soit-elle, reste soumise au couperet démocratique.
Une conclusion forte pour une plongée au cœur des rouages humains et parfois obscurs du pouvoir local.
Très obscur.
Ce document démontre avec brio que l'on n'a pas besoin de regarder vers les capitales nationales ou internationales pour trouver des intrigues politiques complexes.
Pas du tout. Les dynamiques de proximité suffisent amplement.
Les dynamiques de proximité révèlent une porosité fascinante entre le devoir de service public et la tentation de la représentation théâtrale permanente.
Pour prolonger cette réflexion, il y a une idée corollaire troublante qui mérite d'être soulevée en s'appuyant sur l'observation de ce phénomène de dramatisation.
Je vous écoute.
Si le monde politique adopte si naturellement les codes du feuilleton, avec ses rebondissements, ses traîtres grandiloquents et ses conflits familiaux, on peut légitimement s'interroger sur la responsabilité de l'audience elle-même.
Les citoyens, vous voulez dire ?
Quiconque analyse la consommation moderne de l'information pourrait se demander si le public ne finit pas par exiger secrètement cette dose de drame.
On aime le spectacle, en fait.
Face à une gestion administrative de l'urbanisme ou des finances locales, souvent jugée austère ou aride, le spectacle des égaux ne devient-il pas paradoxalement le moteur indispensable pour maintenir l'attention des citoyens ?
C'est cynique, mais très pertinent.
Autrement dit, le scandale et la trahison sont-ils réellement des anomalies du système que l'on rejette ou sont-ils devenus les ingrédients nécessaires pour nous garder captivés devant l'écran de notre vie démocratique ?
C'est une perspective qui laisse de quoi méditer sur notre propre rapport au pouvoir et sur ce qu'on attend vraiment de nos élus.